Dans ce premier épisode de 2024, nous parlons de migration AWS vers AWS, de refactoring d'architecture, comment passer du monolithe synchrone au microservice asynchrone sans interruption pour 14 millions d'utilisateurs. C'est dans le podcast AWS en français. C'est parti, c'est maintenant. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français, le premier de l'année 2024, le 199e. Je suis désolé pour mon invité Quentin, tu n'auras pas la chance de faire partie du 200e épisode du podcast, ça sera pour la semaine prochaine. 5 ans, on rentre dans la 6e année d'existence du podcast. Merci de nous écouter sur les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Music, Google Music, beaucoup sur le web également. N'hésitez pas à utiliser les applis de podcast et à nous télécharger, nous écouter offline. Aujourd'hui, on parle d'architecture, comme je l'ai dit dans l'intro, avec Quentin Rimbaud. Bonjour Quentin, tu es directeur technique de MIM. Alors, question bateau traditionnelle pour commencer, je ne changerai pas en 2024. MIM, c'est quoi?
Salut Sébastien. Alors MIM, qu'est-ce que c'est? MIM, c'est une histoire qui part de deux personnes, Pierre et Gaspard, nos deux fondateurs. Il connaissait déjà à l'époque beaucoup de monde dans le milieu de l'influence, les créateurs de contenu, et il se sont rendu compte qu'il y avait encore beaucoup de problèmes. Il rencontrait encore beaucoup de problèmes ces créateurs de contenu, notamment sur la gestion de leur business finalement, puisque les revenus étaient fluctuants avec la publicité, les partenariats qu'il fallait trouver, la problématique de un partenariat, c'est super, il faut que ces créateurs puissent vivre de leur passion et de leur contenu, mais parfois ça entache la relation de confiance qu'il y a entre leur communauté et eux. Ils sont beaucoup dépendants à des algorithmes de pub qui peuvent soit les pousser à poster énormément sans forcément s'attacher à la qualité et sans avoir vraiment la main sur tout ça. Donc il leur manquait une certaine liberté et je dirais la capacité d'avoir des flux de revenus sains.
Donc MIM, vous mettez en relation des créateurs de contenu avec un public, avec une audience. C'est une plateforme pour que les créateurs de contenu puissent créer et partager leur contenu avec leurs fans.
C'est ça exactement. Et nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est plutôt que de se baser sur la publicité, sur ses revenus indirects, de proposer plutôt que ce soit les fans qui payent directement pour accéder au contenu des créateurs qui les intéressent. Donc on est sur un modèle qui est forcément beaucoup plus sain. On va être autour de globalement deux piliers qui vont être l'abonnement et le média à la demande, le pay-per-view.
Alors quel type de contenu on trouve sur votre plateforme? J'étais me balader un peu en préparant cet épisode, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de coachs personnels, on parle de nutrition, de sport, il y a des athlètes, des sportifs aussi, des artistes, des musiciens, des danseurs. J'en ai loupé?
Non, c'est absolument ça, c'est très large. Ça va de fitness, bien-être, modèle, mannequinat, mais aussi gaming. On a des chefs cuisiniers qui viennent proposer leur contenu aussi. On a de l'astrologie. Donc le panel est vraiment très large et on retrouve les créateurs de contenu dans toutes leurs possibilités.
Alors j'aime bien toujours faire le lien entre le business et la technique. La technique étant là pour supporter le business. C'est quoi les challenges techniques qu'impliquent de tourner une telle plateforme à grande échelle, puisque vous avez 14 millions d'utilisateurs?
Il y en a plusieurs. Bah, évidemment, enfin tout de suite quand on dit 14 millions d'utilisateurs, on pense scalabilité.
Ouais.
C'est une évidence. C'est un gros challenge pour nous. Scalabilité et puis scalabilité à l'international. Nous aujourd'hui, on travaille énormément avec du contenu média qui doit être disponible du coup partout dans le monde. On a aujourd'hui effectivement une équipe qui est très tournée autour de comment est-ce qu'on est capable de délivrer le contenu rapidement, de manière fiable et sur toute la planète.
Donc il y a beaucoup d'ingestion de vidéos, de transcodage vidéo, de distribution de CDN.
Absolument.
Pour minimiser le temps de latence. C'est essentiellement le gros du volume informatique, ça vient du contenu en vidéo.
Oui, si on parle de volume de données, effectivement ça va être le contenu vidéo et photo. Aujourd'hui ça représente presque 18 pétas par an.
Waouh, en réseau sortant ou en stockage?
Oui absolument, non, en réseau sortant, en stockage c'est plusieurs milliers de terras.
Waouh, sur S3 évidemment.
Évidemment.
Alors, depuis combien de temps vous opérez MIM et la plateforme technique existe depuis combien de temps? Parce qu'il y a un historique avant d'arriver à ces microservices dont on va parler aujourd'hui. Vous étiez d'abord, je crois, chez un hébergeur, puis vous êtes migré vers le cloud, et puis maintenant en microservices. À haut niveau, c'est quoi l'histoire technique?
L'histoire technique, elle est vraiment en trois temps, on peut dire. Un premier temps, à partir de 2019, où en fait, c'est Gaspard, à l'époque, donc un de nos cofondateurs, qui a développé la première version de la plateforme, qui tournait chez, effectivement, un hébergeur plus classique, pas un des gros
Un
hébergeurs
cloud.
cloud. Exactement. Jusqu'en 2021, et en fait, assez rapidement, comme le business a très bien marché, MIM est une société qui est rentable depuis le début, et ils ont fait appel à une société externe, un partenaire, pour développer une deuxième version du site à l'époque, pas forcément dans une optique d'internaliser un service tech, mais plutôt de demander à des professionnels de leur faire une nouvelle version de la plateforme. Nouvelle version qui a été livrée sur AWS cette fois-ci, à compter de 2021. Et bon, pour tout un tas de raisons, on a décidé d'internaliser, ils ont décidé d'internaliser le service technique, d'où mon arrivée à cette époque-là. Et là, on a fait face à effectivement pas mal de challenges qui nous ont amené vers une troisième phase, puisque l'application avait été développée, mais avec une agence qui n'avait pas forcément pris en compte toutes les problématiques de justement de scalabilité, etc. Donc, on a dû reprendre les choses en main. Et c'est ce qui nous amène vers cette troisième phase où là, qui n'est pas finie d'ailleurs, hein, qui est toujours en cours, parce que c'est des migrations et c'est des projets qui se font sur le temps long, mais qui nous amène vers cette troisième phase où on sort de ce projet qui avait été développé sous la forme d'un monolithe très classique, très habituel, pour aller pour exploiter plus pleinement les capacités d'AWS et partir en l'occurrence là pour nous sur des microservices.
C'est une histoire assez classique de start-up qui est victime de son succès aussi. Vous avez la base d'utilisateurs qui grandit, il faut adapter le système à ces nouvelles utilisations. Peut-être qu'il y a eu un pivot léger dans le modèle business aussi, entre la première vision du créateur à l'origine jusqu'à maintenant. Et donc l'IT doit suivre avec tout ça. Votre monolithe, c'était quoi? Tu dis classique, alors moi je viens du monde d'entreprise, banque, donc tu me dis classique, je pense Java Oracle, c'est peut-être pas les technologies que vous avez
On
choisies.
aurait même pu dire COBOL à ce niveau-là.
Quand même, je suis pas si vieux que
Non.
ça.
Non, en l'occurrence, PHP Symfony. Mais alors, rien contre PHP, rien contre Symfony. C'est des systèmes qui marchent très bien. En revanche, là, en l'occurrence, pas forcément avec des techniques de design, d'architecture au niveau applicatif, sans même parler de l'infrastructure, mais même au niveau applicatif, qui laissait beaucoup de marge à l'évolutivité de la plateforme. Et puis, deuxièmement, bon, on est quand même maintenant dans un monde où les choses évoluent très vite. Et niveau front-end, aujourd'hui, enfin, moi, quand je regarde, j'ai l'impression que les front-end en JS Vanilla et en jQuery, c'était il y a une
10 ans.
éternité. Et aujourd'hui, enfin, plus personne ne fait ça. Voilà. Je trouverais forcément quelqu'un pour me dire que c'est ce qu'il fait dans sa société, mais disons que dans la majorité, c'est plus ce qu'on fait. C'est plus là qu'on trouve des développeurs aujourd'hui, en majorité et en moyenne, à recruter. Et c'est plutôt vers des frameworks front. Et puis nous, PHP, un des sujets, c'était que c'est pas forcément ce qui est le plus adapté, en tout cas de notre point de vue, à du microservice. Et encore moins du microservice sur de la lambda.
J'avais un client qui disait au siècle passé, donc il y a longtemps, qu'il faut construire son back-end comme s'il était là pour durer 50 années. En revanche, son front-end, c'est quelque chose qui est jetable, qui peut se remplacer tous les 3-5 ans en fonction des modes, des frameworks, des nouvelles technologies. Et donc c'est surtout sur le back-end qu'il faut mettre de l'effort. Donc votre première version cloud en Symfony PHP, base de données, c'était
Base de données PostgreSQL.
PostgreSQL déjà. Si je comprends bien, monolithe shippé dans des, pardon, livré dans des machines virtuelles de façon très traditionnelle. Il n'y a pas vraiment
Alors,
de
un
pré...
petit peu particulier, parce qu'on était dans un Beanstalk qui faisait tourner un ECS derrière,
Ah
mais
oui.
avec des machines EC2 qu'on manageait nous, et Beanstalk servait finalement d'interface de déploiement, ce qui n'avait pas beaucoup de sens. Maintenant qu'on a fait un sur le conteneur Docker, ça avait assez peu de sens. Donc ça a été un des sujets aussi là dans la migration, de dire mais comment est-ce qu'on part vers quelque chose qui déjà on ne ressemble pas à un espèce de bête de Frankenstein.
Beanstalk qui contrôle le CS, c'est la première fois que j'entends, mais c'est vrai que c'est possible aussi. Quel était le premier challenge, le point démarrant pour, enfin le point qui a dit ok, là on doit changer, et on va changer.
Je pense que le tout premier, ça a été la base de données qui tombait. Donc on a eu plusieurs fois des soucis où on s'est dit mais attends, il n'y a plus rien qui marche là. On a la prod qui est à terre. Il va falloir qu'on regarde. Et on s'est rendu compte qu'en fait, nous aujourd'hui on tournait quand même sur des bases de données. Pour info, c'était des 24 XL. des R5 24XL, et on en avait 3. Donc un master, 2 slaves.
Assez cher aussi.
Donc c'était, alors c'est très coûteux, et en plus de ça, même comme ça, on arrivait à avoir des pics de read IO, etc., qui étaient assez lourds. Et donc là, on a regardé, on s'est dit, on a une possibilité de faire un refacto simplement de la DB, de dire, ok, c'est pas indexé correctement, il faut qu'on change la façon dont on gère la donnée. On l'a fait, on a réindexé, on a mis des rustines à droite à gauche, mais on s'est surtout rendu compte que globalement, l'application était mal architecturée pour un tel volume. Et effectivement, on voit que, quand on avait 2-3 millions d'utilisateurs, qu'ils n'étaient pas trop en simultané, qu'ils se lissaient à peu près, aucun problème. Globalement, même mal indexé, Postgre étant une base un SGDB exceptionnel, il se débrouillait. Maintenant, au bout d'un moment, on peut plus bricoler à ce niveau-là. Et donc, c'est là qu'on s'est dit, en fait, il va falloir qu'on essaye de faire plusieurs choses en même temps. Parce que ça serait dommage de refaire la DB et de se dire juste, on va continuer à avoir ce monolithe qui traîne, sur lequel on a du mal à développer parce que pas de test unitaire, parce que pas de ci, pas de ça, architecture logicielle un peu particulière. On va peut-être pas mettre des rustines, on va peut-être plutôt réfléchir justement, je te reprends l'expression, mais pour que le back-end dure 50 ans. Et pour que le back-end dure 50 ans, ça sera, dans notre cas, pas sur un synfo monolithique, ça n'ira pas. Et ça a été effectivement l'élément déclencheur où on s'est dit, il faut qu'on aille ailleurs.
Comment est-ce qu'on aborde un chantier comme ça? Parce que tu l'as dit, c'était des travaux, des chantiers sur plusieurs années. Évidemment, vous ne pouvez pas interrompre les services. Donc, comment vous identifiez la nouvelle architecture? Comment vous migrez petite fonctionnalité par petite fonctionnalité? Comment vous coexistez les deux? Parce que je suppose qu'il y a une période où les deux sont ensemble. Rentrons dans les détails.
Alors, je vais te faire une confession. On a fait une erreur au début.
Ça arrive.
Une bêtise. On s'est dit dès le début, ça va être très simple. On va découper ça en blocs. Oui, c'est ça, mais c'était le saucisson. On va couper des rondelles et puis ça va être parfait, quoi. Non, pas du tout. Ça ne marche absolument pas comme ça. En tout cas, pas chez nous. Mm-hmm. Là, j'arrêterai mon propos à notre expérience, bien sûr. Mm-hmm. Mais donc nous, on s'est rendu compte de ça. On s'est dit, coupons, on a commencé à découper, ça n'a pas du tout marché.
À saucissonner.
Ouais, exactement.
C'est-à-dire en termes techniques, vous identifiez des briques techniques, je ne sais pas, l'authentification, la création de contenu, la diffusion, la recherche, etc. Et vous mettez ça dans des microservices.
C'est ça. Ce qui est quand même ce qu'on va faire à la fin. Mm-hmm. Mais l'erreur de départ étant de se dire...
On fait tout à la fois.
On va lancer un petit peu ces projets en simultané. Et surtout, on va tous se mettre d'accord, notamment au COMEX, sur le fait qu'il y a un freeze des fonctionnalités. On ne développe plus rien et on refait ça parce qu'on sait que même nous, techniquement, comme je disais, avec les limites de la DB, telle qu'elle était construite, on savait qu'à un moment, on aurait un mur. Et donc, du coup, on s'était dit, OK, il ne faut pas qu'on prenne ce risque, donc on est capable d'accepter le code. Bon, en fait, c'est pas possible. Mm-hmm. Dans une startup, arrêter de développer, c'est la mort. Donc c'était pas possible.
Vous êtes rendu compte de ça après combien de temps? Est-ce que faire des erreurs c'est bien? Je
un
sais
mois.
Qu'on a un problème culturel en France, en Europe, par rapport aux États-Unis par exemple, sur la relation avec l'erreur, mais c'est comme ça qu'on apprend, et si on arrive à tirer les bonnes conclusions d'une erreur, c'est quelque chose de positif. Il faut pas que ça coûte trop cher. Tu dis un mois, ça va. Vous n'êtes pas engagé trop longtemps dans un projet qui mettait la boîte en péril?
Non, absolument pas. Non, franchement, ça a été assez rapide, mais je pense que c'était important pour nous de toute façon de s'en rendre compte, et on s'en est rendu compte en l'expérimentant. Donc c'était une bonne chose.
Et quelle est l'approche qui marche pour vous alors?
L'approche qui marche beaucoup mieux pour nous aujourd'hui, c'est plutôt de se dire, déjà on a identifié les services très critiques. On s'est dit, ok, ça, c'est ce qui va tomber. Donc même si c'est un monolithe, on sait qu'il y a certaines parties du monolithe qui sont plus sollicitées que d'autres, même si au niveau infrastructure, c'est la même chose à la fin. On peut se dire déjà, si on sort cet élément-là du monolithe, là, on va réellement baisser fortement la consommation dessus. Et on a identifié ces briques-là. Alalors, c'était quelques briques, notamment le service de gestion des médias, évidemment, qui nous est très sollicité, et le service de gestion des comptes utilisateurs et d'authentification. Mm-hmm. Donc, ces deux services très sollicités, on s'est dit, en fait, si on arrive à découper, à sortir juste ça déjà, par morceaux, ça va aller. Et surtout, on a fait des concessions. Là où au début, on se disait, on développe un nouveau front-end, entièrement au propre, neuf, on lui donne sa brique d'authentification, on fait fonctionner l'authentification entre le monolithe et le service, et à partir du moment où on a ça, on est tranquille. on va pouvoir développer des services, les brancher directement au nouveau front et, entre guillemets, oublier presque le monolithe. Pour un service d'authentification, pour le service de médias, le monolithe n'existe plus.
C'est-à-dire construire quelque chose autour du monolithe qui le remplace petit à petit, qui le vide de sa substance petit à petit, jusqu'au moment où le monolithe n'existe plus. C'est une design pattern hein, de migration qui s'appelle FIG, je sais plus quoi. Ça vient des arbres. Vous avez peut-être déjà vu ça, des arbres qui ont des racines qui pendent à partir des branches, et puis ces racines deviennent de plus en plus grandes jusqu'au moment où l'arbre au milieu crève parce que il a plus de raison d'être. Et donc l'idée, c'est de faire la même chose avec les microservices. Et on parle au conditionnel, vous avez fait ça? Non, je pense.
Si, mais avec une petite nuance. Et là aussi, c'était. On n'a pas fait l'erreur, mais on n'a pas passé loin. On a réfléchi à un moment, mais on s'est resté au stade d'études techniques. On s'est dit, mais on aimerait bien éviter de devoir créer des interconnexions entre notre monolithe et nos nouveaux services. On voudrait que ce front-end soit autonome avec les microservices. En réalité, le monolithe étant par définition, à moins qu'il soit très petit, mais par définition étant très intriqué, en réalité, c'est quasiment impossible. Puisque aujourd'hui, on dit, très bien, on crée un service de médias. Oui, mais en fait, le monolithe, c'est toujours lui qui va gérer la création du compte avec le changement de la photo de profil.
Ouais.
Donc, on s'était dit au début qu'on allait essayer d'éviter entièrement cette idée de connecteur entre monolithe et microservices. On s'est très vite rendu compte que c'était absolument impossible. Donc aujourd'hui, au contraire, on a accepté de dire... On va mettre plus longtemps à faire cette refacto parce qu'on va devoir faire des briques intermédiaires jetables d'interconnexion. Mais on est serein, on est safe et on est en plus capable de continuer à développer en même temps. Nous, aujourd'hui, on continue à faire des features en même temps qu'on fait le refacto. Et à la place de se dire, on va faire sur un temps beaucoup plus court, mais par contre, on va devoir à un moment faire un switch instantané. On n'aura pas cette montée en charge progressive des microservices. On va devoir à un moment... tuer le monolithe au moins à 90%, mettons, et déployer tous les microservices d'un coup, ce qui en plus en termes de panique,
de risque,
le jour de la mise en prod est exceptionnel.
De stress. Donc je t'ai bien compris, si je rephrase de cette façon, vous développez des microservices qui sont l'interface du front, mais ces microservices n'ont pas nécessairement les fonctionnalités dans le microservice. Dans un premier temps, il y a une brique, un connecteur qui continue de consommer les fonctionnalités business du monolithe jusqu'au moment où vous avez le temps de migrer ce code-là et petit à petit vous dépréciez les fonctionnalités dans le monolithe.
On essaye plutôt de faire dans l'autre sens. On essaye plutôt de faire en sorte que le monolithe vienne consommer des fonctionnalités, des microservices. Et l'exemple que je te donnais est pour le coup pas réel. C'est que la création de compte, typiquement, effectivement, on a dit c'est toujours le monolithe qui va créer les comptes, mais il va aller mettre les photos de profil qui sont uploadées directement dans le nouveau service de médias. Et ça nous permet effectivement, en essayant de rester toujours dans ce sens-là, de à chaque fois réduire la charge sur le monolithe plutôt que de la garder constante, parce que si on décidait de continuer à avoir des microservices qui appellent le monolithe, dans ce cas-là, on baisse pas la charge.
Quelle technologie pour ces microservices? Vous êtes resté sur des containers, j'ai entendu parler de Lambda aussi, il y a peut-être plusieurs technologies.
On en a plusieurs.
Les
deux principales, on utilise beaucoup Lambda et on utilise ECS avec une couche de... protocole buffer.
D'accord.
Donc, nous, c'était l'idée de faire du gRPC, protobuf. L'idée était la suivante, c'était... Les lambda, c'est super, mais il y a un peu de cold start. Et surtout, on ne maîtrise pas forcément le temps d'accès réseau. Il y a de la sérialisation, de la désérialisation, etc. Et je sais que il existe un monde parallèle féerique où les microservices sont tous autonomes et indépendants, ce qui n'existe pas. Alors pas si, sûrement quelqu'un l'a fait un jour probablement, mais c'est quand même très rare de pouvoir se permettre d'avoir une application avec X microservices qui ont quasi aucune interconnexion synchrone entre eux, ou aucune. En tout cas, nous, dans notre cas, c'était compliqué en gardant des briques un peu logiques pour les développeurs. Et donc, on a besoin à un moment d'avoir de l'interconnexion synchrone, notamment sur des questions de paiement, etc., qui ne peuvent pas se permettre de perdre de la donnée, ni d'être remis à plus tard. Et là, on s'est dit, en fait, le plus simple pour essayer de minimiser ces temps d'interconnexion, c'est d'utiliser un protocole qui soit un
performant.
Peu plus performant que HTTP, JSON, sérialisé, désérialisé. Donc, on est parti sur, effectivement, protobuf gRPC sur des conteneurs derrière des API Gateway.
Langage de programmation dans tout ça?
Golang.
Golang à la fois côté Lambda et côté Docker.
Les deux, on a un tout petit peu pour certains de Python pour la simplicité de développement sur des choses où on apporte très peu d'intelligence métier. Mm-hmm. Et on a un tout petit peu de Node.js parce qu'il y a des endroits où on avait besoin de librairies qui n'existaient qu'en Node.
Et sur le
2%.
Et sur le front-end aussi, je suppose. Vous êtes parti sur un React, Angular ou un truc comme ça.
React, TypeScript.
Ouais, donc là c'est un stack relativement classique. Intéressant le choix du langage Golang. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une majorité de développeurs qui connaissaient, ou il y a une courbe d'apprentissage, ou des benchmarks très poussés de performance ou autre.
Déjà parce que j'aime bien.
C'est une bonne raison.
C'était un des langages que je connaissais très bien. Mm-hmm. C'est un des langages pour lesquels on avait des développeurs qui étaient déjà bons à l'origine. Mm-hmm.
Ça c'est important.
Langage qui est très performant, mm-hmm. qui fonctionne parfaitement sur Lambda. Ça tourne partout, c'est du compilé, c'est du code natif, pas de problème. Et nous aussi, ce dont on s'est rendu compte, c'est que c'est, et en même temps c'était un peu une des vocations de ce langage, c'est un code qui est super industrialisable. Et nous, ce qu'on voulait, c'est à un moment, on va devoir travailler sur plein de services différents, avec des développeurs qui vont un jour bosser sur un service A, mais dans 6 mois peut-être sur un B, etc. Et on trouve que Golang, notamment rien qu'avec le fait qu'il a tout un set d'outils intégrés directement dans le langage pour le formatage du code, la gestion des commentaires, etc., toutes ces choses-là, c'est un langage qui permet assez facilement d'avoir une manière très uniforme de travailler. Et nous, c'est quelque chose qui nous a beaucoup plu.
Et gRPC sur les load balancers, j'ai un petit doute, c'est supporté en natif, ça ?
Oui.
Ah oui, depuis 2020. Ok.
Absolument. On était très contents.
J'imagine. C'est quoi la limite d'un... c'est quoi les limites, les boundaries, les limites au sens anglais d'un microservice ? Est-ce que c'est fonctionnel ? Est-ce que c'est technique ? Est-ce que c'est lié à la data ? Comment est-ce que vous découpez ?
C'est un peu les deux. Nous, on l'a tourné autour de deux aspects. C'était que, déjà, fondamentalement, on pourrait se dire que si on les prend d'un point de vue purement technique, en réalité, on pourrait presque tout remettre dans un monolithe en se disant, bah, d'un point de vue purement technique, du coup, c'est génial, tout se parle sans même avoir de couche réseau. Mm-hmm. Bien sûr, je schématise et on peut trouver une solution un petit peu à mi-chemin, côté technique, en ayant quand même une séparation. Nous, ce qu'on voulait quand même, c'était, on travaille quand même avec un gros service produit chez nous qui a besoin de comprendre comment fonctionne notre architecture. On travaille avec des développeurs qui sont dans le business et pas dans la pure technique très intellectuel, très détaché. Donc on a découpé un petit peu à mi-chemin où certains services, on a dit là il y a une limite, on pourrait les mettre ensemble, typiquement nous sur des services de paiement versus reversement des fonds aux créateurs, on pouvait se dire ça aurait une cohérence à être mis ensemble, mais d'un point de vue technique on voulait avoir une couche de rejouabilité entre les deux, donc on a décidé de les séparer, d'en faire deux. Après, sinon, dans l'ensemble, c'est plutôt des briques au sens fonctionnel.
Tu parlais de l'authentification tout à l'heure. Moi, j'ai cité la recherche. C'est ce genre de briques-là ?
Oui, c'est ça. Alors, on a un service qui est très orienté contenu. Et le service contenu, c'est lui qui va gérer la recherche, c'est lui qui va gérer le fil d'actualité, qui va gérer les contenus en pay-per-view, etc. On a effectivement un service d'authentification, on a un service de paiement, on a un service de reversement. C'est un petit peu comme ça que c'est organisé.
Et tu as mentionné gRPC pour les besoins synchrones, mais il y a beaucoup de besoins asynchrones également. Tu viens de mentionner les reversements. Je suppose que c'est quelque chose qui peut se faire tout à fait en... Les reversements, si j'ai bien compris, c'est quand vous payez vos créateurs, c'est ça, hein ?
Absolument.
Ok, on s'est bien compris. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se faire en asynchrone. Donc vous avez un mix de protocoles de communication, de middleware de communication, gRPC, HTTP en étant un, et SQS, je pense, donc les queues asynchrones de l'autre côté.
C'est ça exactement, on s'est posé la question pendant un temps, SQS, Kafka, etc. Et on a vite réfléchi sur la nécessité de passer sur des systèmes beaucoup plus gros, d'éviter d'aller vers de l'over-engineering et de faire quelque chose d'énorme pour pas grand-chose au final. En réalité, on a beaucoup de queues différentes qui font passer beaucoup de messages mais qui n'ont pas des besoins très spécifiques. Globalement, on a besoin de DLQ, d'avoir de la rejouabilité, d'avoir du monitoring, etc. On n'a pas des besoins énormes et on a des volumétries qui sont, oui, en millions par jour de messages, mais qui ne sont pas non plus en centaines de milliards, on n'est pas Google ou Amazon.
Mais d'où l'importance d'avoir du monitoring, parce que ces messages ne peuvent pas se perdre. Si on parle de reversement à vos créateurs, on parle quand même de transactions financières, donc il faut s'assurer que tous les messages sont délivrés. D'où l'importance des dead letter queue, les DLQ que tu as mentionné. Qu'est-ce que vous utilisez en monitoring et replay et dashboard et autres?
On utilise Grafana pour tout ce qui est dashboarding, qui est connecté, avec les sondes de Grafana sont connectées derrière sur OpsGenie, sur lequel on a nos plannings d'astreinte pour déclencher les alertes au bon endroit, au bon moment, selon le jour, l'heure, etc. Et à la bonne équipe aussi, puisque selon les alertes, ça part chez les Ops, à la Sécu, au Dev, etc. Et derrière, nous, pour la partie purement replay, en fait, on a quasiment aucun cas où on a besoin de les retraiter. Alors, on a, nous, de toute façon, le retry automatisé, et ça tombe quasiment jamais en DLQ. Donc, pour le moment, c'est encore un process manuel où, effectivement, la présence de messages dans une DLQ va déclencher l'astreinte. Mm-hmm. Ou simplement, si c'est en journée, tant mieux, quelqu'un qui regarde le Slack. Et on va aller investiguer sur le pourquoi du comment avec les logs CloudWatch, avec les métriques Grafana, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Mais c'est vraiment exceptionnel.
De toute façon, mon expérience des dead letter queue, c'est qu'en général, le message est mal formé. Donc, le rejouer automatiquement, ça ne servira à rien. Il faut de toute façon transformer le message pour qu'il soit traité.
Soit il est mal formé, soit le service qui devait le recevoir
était saturé.
Alors, saturé, oui, mais ou sinon simplement, ça peut nous arriver parfois quand on fait appel à un partenaire au niveau du service qui reçoit le message. Si le partenaire est down, parce que si nous-mêmes on est down, on va pas lire le message, donc il va rester dans la queue. Mais si par contre on le reçoit et que le partenaire lui est down, on risque potentiellement de refuser le message, de timeout, de renvoyer une erreur simplement sur lambda, et donc que le message soit retry trois fois, et puis au bout de trois fois, il va aller en DLQ. Donc ça peut arriver aussi, mais ça demande une investigation
manuelle.
En tout cas, dans notre cas, manuelle et humaine.
Vous êtes sur une région, sur plusieurs régions?
On est sur plusieurs régions, l'immense majorité est sur la région de Paris, donc US 3. On a un petit peu de données en Irlande. Nous, de toute façon, aujourd'hui, les données ne sont, au sens stockage, que en Europe, en Union européenne. Mais par contre, on a après des services, notamment Edge, donc là, pour le coup, un petit peu partout. On a des services qui sont répliqués, surtout, entre... principalement France, Allemagne et Irlande.
Et Irlande, c'était ma question suivante. C'est si vous êtes en plusieurs régions, d'abord comment vous routez le trafic sur ces régions, et puis après, quelles sont les données que le client qui a été routé vers l'Irlande, quelles sont les données qu'il va voir en Irlande?
Alors, nous, on duplique aujourd'hui typiquement pas certaines choses. Donc, c'est un des projets qui est en cours. Par exemple, les bases de données relationnelles sont centralisées. On a juste des read réplicas. Mais on n'a pas de capacité en écriture. Donc, ce qui veut dire que si on route quelqu'un en Irlande, on n'aura que de la consultation.
Mmh. Ça veut dire que le microservice qui est déployé en Irlande, il peut accéder aux read replica locaux pour lire, mais si jamais il doit écrire, il sait qu'il doit aller écrire à Paris.
C'est ça. D'accord. Exactement. Mmh. C'est pas encore quelque chose de très opti. Il va falloir qu'on change ça. Mais pour le moment, c'est ce qu'on fait. Et surtout, aujourd'hui, une bonne partie de nos réplications, c'est plutôt du failover, en fait.
C'est-à-dire,
si à un moment on a un problème sur Paris, on est capable de basculer ou surtout de récupérer de la donnée sur ces autres régions.
Et vous routez comment les clients? C'était la première question. C'est avec du DNS ou
ils sont
hachés? Ok, donc c'est en fonction de la localisation géographique du client. Route 53 va le router sur une région ou l'autre.
C'est ça, exactement.
D'accord.
Après, pour le moment, on a mis ça en place, mais on a coupé, en fait, puisque aujourd'hui, on n'en s'en sert plus qu'en failover. Ça a marché, mais on n'a plus d'intérêt, puisque entre Irlande, Allemagne et Paris.
La latence est minime.
C'est,
hein,
c'est ça, c'était plutôt un test pour quand on va déployer aux États-Unis.
Surtout Allemagne. Je regardais justement les temps de latence entre. Moi, je suis dans le nord de la France, ici, entre Paris et Francfort. Je suis à peu près à mi-distance en termes réseau, en tout cas.
Oui, c'est ça.
Un peu au-dessus de 10 millisecondes pour Francfort, un peu en dessous de 10 pour Paris. C'est vraiment minime. Vous testez vos failovers? Tu parles de ça, ça m'ouvre une tonne de questions. Je vais pas aller au bout de mes idées là pour le temps, mais comment vous testez le failover? Est-ce que vous fermez des régions de temps en temps?
On eut testé. On le teste parfois sur des environnements de staging. En prod, non. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu besoin de le déclencher sur la prod. On l'avait fait une fois de nuit pour tester. Ça s'était bien passé, mais je parle de ça, c'était il y a un an et demi ou 2 ans.
Ouais, l'archi a évolué depuis.
L'archi a beaucoup évolué depuis. C'était plutôt, on a testé, on a vu qu'on était capable de le faire. On sait que le jour où on aura effectivement une plus grosse présence géographique au niveau, nous, technique, là, on aura un intérêt à remettre ces choses-là à plat. Pour le moment, c'est plutôt à l'état de coq.
Je pose la question parce qu'à Reinvent, j'ai vu passer une annonce qui disait qu'on fait de l'automatique zonal shift maintenant. Donc on peut configurer des endpoints comme un load balancer pour dire voilà, celui-là, si jamais alors c'est pas encore régional, c'est zonal. Si une availability zone, s'il arrive quelque chose à cette availability zone, le trafic est automatiquement envoyé sur les availability zones survivantes. C'est entièrement automatique, il faut plus s'en soucier. Enfin, c'est encore un degré en dessous du zonal shift. On a parlé migration, oui, donc là, on a parlé de pattern d'accès réseau, synchrone ou asynchrone, on a tout petit peu parlé de monitoring. Où vous en êtes là pour le moment? Vous avez encore le monolithe et qui offre certaines de ses fonctionnalités?
Oui. Oh,
Oh
il
oui.
en offre même pas mal. Non, non, on a encore, je pense qu'on a encore minimum 8 mois, 1 an de travail là devant nous. Donc non, le monolithe offre quand même encore beaucoup de fonctionnalités, notamment parce qu'une partie des microservices vont quand même devoir être déployés un peu en même temps. Alors heureusement pas tous, hein, on en a mais quelques-uns pour simplement des questions en fait de disponibilité côté nouveau front. On n'a pas envie qu'il y ait une cohabitation avec une différence trop forte entre le nouveau front, c'est aussi une refonte graphique. Donc on veut pas forcément se retrouver avec un énorme bout du nouveau front-end pour toute une partie et puis hop on change de page et c'est l'ancien design. Donc ça va nous obliger à. Pour nous, c'est plus simple, en tout cas dans notre cas, de déployer plusieurs microservices en même temps sur ce cas-là, enfin plusieurs fonctionnalités dans plusieurs microservices en même temps, plutôt pour être plus précis. Donc non, aujourd'hui, le monolithe continue à fournir une bonne partie du service. Les choses se font petit à petit. Il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui justement sont en cours de test côté pré-prod. Bon, nos services d'attente sont déjà en prod. Notre service de médias, là, est quasiment fini. Il est fait en pré-prod, il va partir en prod. On a un service de paiement qui est fait, etc. Donc on a quand même des choses hein, qui tournent aujourd'hui, qui tournent même bien. On a un service de notification entier qui retourne. Nous, c'était un des sujets. Hein, les notifications étaient tout stockées dans la base relationnelle. On avait plusieurs centaines de millions de lignes, même on avait plusieurs milliards de lignes dans la table
Dans
de
cette
notif.
table-là, ouais.
Tout était en synchrone, on avait quelques petits sujets et on a tout passé sur, en l'occurrence, SNS. SNS qui plus dans des SQS qui sont appelés par des lambdas pour avoir de la rejouabilité avec les SQS et pouvoir envoyer dans plusieurs topics en même temps côté SNS.
N'y a plus de base de données pour les notifications. En tout cas, elles sont plus stockées dans une grande table
Plus comme ça,
relationnelle.
hein. Plus comme ça en tout cas.
Tiens, ça m'amène une autre question que j'ai pas posée. Chaque microservice est libre d'utiliser la base de données la plus adaptée à ses choix ou tout le monde utilise encore Postgres?
Alors non, tout le monde utilise ce qu'il veut. C'est l'idée un petit peu, ça nous ouvre des horizons, déjà sur des bases non relationnelles. Aujourd'hui, on est en train de notamment de travailler sur les bases de données temps série. On est en train de regarder pour notamment les capacités de donner des éléments d'analytics aux créateurs pour leur permettre de mieux piloter leur business. Et sinon, non, on utilise de plus en plus de non relationnels, donc en l'occurrence de la DynamoDB. On utilise en relationnel, par contre, on essaye de se cantonner à Postgre, puisque globalement, pour
Ça
nous, il
marche.
n'y a pas de ça marche. Et je
Vous
sais que tous
connaissez.
les SGDB relationnels ont leurs spécificités. Pour nous, on a besoin de quelque chose de généraliste qui marche bien. Pour le relationnel, PostgreSQL fait ce travail très bien, aucune raison d'aller en apprendre d'autres et de se rajouter de la complexité, que ce soit niveau Ops, CQ, Dev, donc pas nécessaire.
Mais au
Donc,
niveau Ops, vous utilisez des services managés comme Aurora ou RDS ou vous la
oui,
gérez vous-même sur EC2?
non, c'est RDS.
RDS.
On utilise RDS pour les bases de données relationnelles.
La distribution des médias, vous distribuez des vidéos, des photos à des millions de membres. Tu as mentionné un réseau de distribution global. Je suppose que tu avais en tête CloudFront. Ça marche comment
Évidemment.
cette distribution de médias?
Alors nous, ça fonctionne finalement de manière très très simple. C'est peut-être la partie la plus. Alors sur la visualisation, j'entends, le stockage et la conversion, c'est un peu différent. Mais sur la visualisation, c'est quand même très très simple. Pour pouvoir parler de la visualisation, il faut peut-être que je te parle un petit peu de comment on les stocke, parce que ça va avoir son intérêt. Mm-hmm. Nous, évidemment, les stocke sur S3, ça, on en avait parlé, mais surtout, on les stocke toutes converties au même format. On n'a pas de problématique, c'est-à-dire on a JPEG, PNG en photo, et côté vidéo, on stocke tout en M3.8 ETS, donc on n'est pas embêté sur le format, on sait comment tous les fichiers sont organisés de manière assez simple, c'est bien normalisé.
Ça veut dire que quand un créateur upload du contenu, vous avez un pipeline qui va transformer son contenu dans vos formats pivots, vos formats standards, et les stocker sur S3.
Bah, le service, c'est MediaConvert finalement.
D'Elemental.
Ouais, absolument.
D'accord.
Ça marche très bien. Mm-hmm. Donc, on stocke ça derrière dans nos S3. On a des lambda qui s'occupent de notifier les services que le média est disponible, uploadé, prêt. Et ça marche bien comme ça. Et donc, sur la visualisation, nous, aujourd'hui, c'est tout avec simplement en utilisant des signatures sur une distribution CloudFront. Parce qu'évidemment, le principe même étant qu'il y a un besoin d'abonnement ou d'achat à l'acte, on a, nous, nos applications côté back-end qui s'occupent de vérifier que l'utilisateur a bien acheté tel média ou est bien abonné de telle manière à ce que ce média soit accessible. Et là, on va générer effectivement des URLs signés pour CloudFront. Ces URLs signés vont en plus avoir les paramètres d'IP d'origine, etc. pour éviter. Alors, rien n'est infaillible, mais en tout cas, pour essayer d'éviter le partage des URL, elles vont avoir évidemment des temps de vie très courts puisque le navigateur n'a besoin de la télécharger que très rapidement. Mm-hmm.
Ça veut dire que si je reçois une URL signée, il y a mon adresse IP source dedans, donc si je la poste sur Discord ou sur un autre média après, quelqu'un clique dessus, pour lui ça va pas marcher.
C'est ça. Mm-hmm. Et puis surtout, normalement,
et puis ça va durer que 15 secondes, 20 secondes, et puis après, même pas. Ok.
Bah, surtout qu'avec les vidéos comme ça découpées en chunks, mm-hmm. nous en plus on peut avoir des temps de vie très très courts sur les URL signés, puisque le chunk est tout petit.
Ça fait quelques secondes de vidéo. Hein. C'est pour ceux qui connaissent pas, c'est un format vidéo où chaque vidéo est découpée en un petit segment et puis il y a un fichier texte, le fameux M3U8 dont tu as parlé, qui est une playlist qui dit voilà, le premier chunk c'est ça, le deuxième c'est ça. Et c'est le client en fait, c'est le navigateur, enfin le player qui va aller télécharger les petits segments de vidéo les uns après les autres. Et donc à la fois l'URL de la playlist est signée, mais chaque segment vidéo est lui-même signé également. Enfin, je veux dire, à une URL signée, c'est ça?
C'est ça.
Et vous générez donc les playlists dynamiquement avec la signature dedans.
C'est ça, exactement. En fait, en réalité, c'est même un tout petit peu différent. On va autoriser sur l'intégralité du dossier de la vidéo, mais on va devoir régulièrement redemander une clé pour aller chercher les chunks suivants. Donc en réalité, on n'a pas une URL signée par chunk, mais par contre, il faut aller récupérer régulièrement une nouvelle URL signée.
Et donc tu m'as dit au début, moi j'avais pris des notes entre 15 et 20, mais 17, 18 pétabytes qui sortent de CloudFront par an, c'est ça?
De transfert par an, absolument.
Waouh. Pour 14 millions d'utilisateurs, je vous laisse faire le ratio entre le nombre de vidéos et le nombre d'utilisateurs. Sujet passionnant, la migration en cours, hein, on l'a bien compris, d'un monolithe en microservice, les challenges business qui déclenchent ce genre de migration, et puis les challenges techniques pour arriver à migrer ces fonctionnalités sans interrompre le service. Donc on a parlé monolithe, on a parlé Docker, on a parlé Lambda, on a parlé communication synchrone, asynchrone, on a parlé distribution de contenu vidéo sur le web. Il y a d'autres choses que j'ai oubliées dont tu souhaites parler, Quentin?
Non, globalement, c'est un petit peu le boulot pour l'année qui vient. Là.
Et bah justement, l'année qui vient et l'année au-delà, c'est continuer la migration. Et vous êtes fixé un objectif en interne de dire le monolithe, on le tue au 31 décembre 2024?
Je peux,
ou plus tard.
J'essaie de ne pas le dire trop fort parce que...
Il y en a qui écoutent.
Ouais, j'imagine que les ingés de la boîte vont écouter. Je ne l'aurais pas encore forcément trop dit, mais on aimerait bien avoir fini avant la fin de l'année. Mm-hmm. Alors, fini, ça ne sera jamais fini, mais que la migration soit finie avant la fin de l'année.
Une architecture n'est jamais finie, c'est un travail évolutif en cours qui change avec les besoins business. Est-ce que cette migration vers des microservices et vers le cloud vous ouvre la porte, la vision sur des choses que le business demande, qui sont maintenant techniquement faisables, qui n'auraient pas été faisables avec le monolithe?
Oui, clairement. Alors, pas nécessairement sur la pure scalabilité, parce que ça, finalement, si on n'avait pas eu de problème d'application relativement mal développée à l'origine, Bon, fondamentalement, un mono, ça peut tenir des grosses charges. Hein, au bout d'un moment, il faut juste le scaler. Mmh. Mais par contre, là, c'est surtout, je dirais, sur l'évolutivité de l'application, d'avoir réécrit, puisque cette migration, finalement, elle va au-delà de juste on n'arrive pas à scaler, c'est aussi on n'arrive pas à scaler, mais en plus, on n'arrive pas à développer dans le carcan qu'on a actuellement. Y a plein de choses qui vont ensemble. Et donc, d'être en train de régler l'ensemble de ces éléments en même temps, c'est vrai que nous, ça nous ouvre la voie de pouvoir dire à un moment au business, bon, là, on vous avait dit jusqu'à maintenant qu'on n'était pas capable de le faire ou que si on le faisait, on n'était pas sûr de nous. Maintenant, on sait qu'on peut le faire. Il n'y a pas de problème. Maintenant, on sait qu'on a les reins assez solides pour encaisser, notamment sur des questions, par exemple, de live vidéo, etc. On a eu pas mal de soucis sur le live vidéo dans sa première mouture qui est en train d'être refait. Donc, cette nouvelle version, on est beaucoup plus serein dessus, par exemple.
Donc le cloud et une architecture cloud native vous permet de débloquer des besoins business, en tout cas les débloquer, les rendre plus facilement accessibles ou réalisables techniquement, et vous comptez faire ça en parallèle avec la migration. Comme tu as dit au début, vous n'attendez pas que la migration soit finie pour continuer d'innover et de fournir des nouvelles fonctionnalités à vos clients.
Je dirais presque que c'est l'occasion, il faut en profiter, parce qu'on est en train de migrer, donc le code, en plus on change de langage. Donc le code, de toute façon, il doit être réécrit. Mmh. Est-ce que ça a vraiment de l'intérêt de réécrire le code, entre guillemets,
tel quel,
coller, ouais. J'ai presque envie de dire, évidemment, je schématise, mais je filerais le PHP à ChatGPT en lui disant de me le mettre en Go et puis ça irait.
J'allais le dire.
Ou est-ce que c'est plus malin de dire à un moment, mais en fait, on peut rajouter une nouvelle fonctionnalité, on peut faire évoluer celle qui existe déjà. Dans le cadre de cette migration, ça nous permet aussi de faire de respécifier fonctionnellement les besoins.
Quentin Rimbaud, directeur technique de MIM, le premier réseau social français pour approcher les créateurs de contenu et leurs fans sur la migration de l'architecture d'un monolithe vers des microservices. Merci Quentin d'avoir répondu à mes questions. C'était une conversation passionnante. Merci à vous d'avoir écouté le podcast AWS en français jusqu'au bout. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On sera le vendredi 10 janvier de tête. Rendez-vous vendredi.
Le 12, non, Sébastien?
Ou le 12. On est le 5 aujourd'hui. 5 plus 7, 12. Merci Quentin pour cette précision. Et rendez-vous vendredi prochain. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.